On va ouvrir cette table ronde sur la question de la démocratie alimentaire et de l'alimentation plus largement. Donc, avec Nathalie Barthes, qui est donc paracultrice. Donc, paracultrice, elle va vous expliquer, mais c'est une manière de favoriser les plantes comestibles dans l'espace sauvage. Et donc elle est paracultrice, elle est aussi coprésidente de la région Occitanie de la CIVAM, Centre d'initiative pour la valorisation de l'agriculture et du milieu rural. Et elle est donc très engagée dans ces expérimentations de la sécurité sociale de l'alimentation, autour notamment de la caisse de Montpellier, puisqu'elle nous vient de l'Hérault. Et donc elle va présenter vraiment qu'est-ce que c'est que cette sécurité sociale de l'alimentation, en quoi du coup c'est un modèle sécurité sociale mais pour la nourriture, pour la justice alimentaire, la démocratie alimentaire, aussi pour plus de justice et de rétribution au juste prix des agriculteurs. Donc c'est toute la chaîne en fait qui est concernée. Et puis ensuite, Émilie Bresse, donc directrice du syndicat des Hautes-Vallées et Cévenoles, que je ne vous présente plus, interviendra sur qu'est-ce que fait le syndicat en lien avec l'alimentation. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue de loin, dans un week-end très chargé, et pour nous présenter cette expérimentation vraiment nécessaire.
Je vais tester un truc quand même, parce que moi je déteste les micros, mais vraiment.
Oui, mais je crois que... Non, mais Nathalie, c'est parce qu'il y a un enregistrement, en fait. Voilà. Donc en fait, le micro est un peu obligé.
Okay. Ah. C'est la gloire. Donc je ne veux pas que je dise de conneries du coup.
Non.
Ah, trop tard. Donc, je suis aussi danseuse orientale. Hein. Alors, la paraculture, vite fait. Donc la paraculture, c'est un mot qui est sorti d'études d'un anthropologue qui a étudié certaines peuplades qui favorisaient la multiplication des plantes sauvages comestibles dans la forêt. Donc il a mis ce terme sur ce qui s'est passé entre chasseurs, pêcheurs, cueilleurs et l'agriculture. Il y a eu une période où on a favorisé les plantes sauvages comestibles. C'est ce que je fais sur mes 6 hectares de garrigue, donc qui étaient complètement lessivés, à l'abandon, parce que pas mécanisables, et avec une dizaine de variétés seulement de plantes sauvages comestibles. Maintenant, avec mes animaux domestiques, on a refait un sol, avec ce que j'ai enlevé, avec les réseaux d'eau pluviale que j'ai restaurés, tout ça, fait que maintenant j'ai une centaine de plantes sauvages comestibles qui poussent sur mon espace. Voilà. Donc je suis paysanne de ça, donc voilà, elle a aimé ça pour cette activité, et j'en ai vécu en étant traiteur avec ça, pour dire, donc dans l'Hérault, près de Pézenas. Je me suis engagée dans les CIVAM il y a déjà longtemps, ça fait, quand je me suis installée, donc il y a 15 ans, pour faire d'abord de l'accueil social, et puis ça m'a très, très vite intéressée de m'engager un peu plus, parce qu'il faut des administrateurs dans les associations, donc je suis devenue administratrice à la Fédération régionale, et puis j'ai été représentante au réseau national au moment où on avait un projet au réseau national des CIVAM, qui s'appelle Accessible, qui mettait en relation des associations caritatives, des CCAS, bon les CIVAM bien sûr, pour imaginer comment sortir du système de l'aide alimentaire, qu'on trouvait insupportable et absolument inique. Donc on a travaillé là-dessus, on a fait un film, on a sorti un bouquin qui a visé des collectivités, mais pas que, avec 13 chapitres sur comment faire pour sortir de cette aide alimentaire. Donc ça a été le premier truc en 2018. En même temps, les ingénieurs d'Agrista imaginaient un système donc, de sécurité sociale de l'alimentation. C'est la même période. On s'est tous mis à ce moment-là à se dire ça suffit. Cette aide alimentaire, c'est pas possible. Il faut que tout le monde mange choisi, de qualité. Enfin, la phrase habituelle, quoi. Donc, ils ont imaginé cette sécurité sociale d'alimentation avec. Bon, la carte à 150 euros, c'est anecdotique parce que de toute façon, on va être obligé de la réviser petit à petit. C'était donc en 2018 une carte à 150 euros, mais qui serait universelle. Là, vous aurez sur ces fiches, vous pourrez venir les voir après. Tout est bien résumé. Donc il serait universel, c'est-à-dire que même Bernard Arnault, lui, aurait sa carte, un bébé qui naît aurait sa carte, vraiment, chacun aurait sa carte d'alimentation dès qu'il arrive sur Terre. Dès qu'il naît. On n'arrive pas sur Terre, c'est n'importe quoi. Donc, cette carte, donc ça, c'est un des piliers. Le deuxième pilier, c'est que cette carte, elle serait alimentée financièrement par les cotisations sociales. Moi, j'ajoute des cotisations financières. Il faut réfléchir à d'autres financements que la cotisation sociale. Ça serait un peu plus juste, surtout avec ce qui se passe en ce moment, avec les gros bénéfices, là. Et le troisième pilier, qui pour moi est le plus important et qui vous concerne, je pense, c'est que chaque conventionnement se ferait par bassin avec des comités de citoyens décidant eux-mêmes du conventionnement. Donc là, comment ça s'est fait sur la caisse de Montpellier ? La caisse de Montpellier, elle a 2 ans et demi d'existence maintenant. On a réussi à financer cette chose. Je vais essayer de remonter un petit peu en arrière. Donc on a le projet accessible. Le plan relance pauvreté de l'État après le Covid, hein, qui balance plein de trucs là. Eh ben, on en a profité, nous, un petit peu, c'est-à-dire qu'on a répondu à ce projet par le territoire à vivre, donc sur 4 villes, Montpellier, Toulouse, Lyon et Marseille. Avec ce financement, qui était quand même conséquent, il y avait 1,2 million, on a pu salarier 2 personnes, 2 ingénieurs par ville, qui ont travaillé sur comment sortir de l'aide alimentaire. C'était toujours la question qu'on mettait en avant. Et donc, les résultats ont été différents d'une ville à l'autre. Il se trouve qu'à Montpellier, parce que plein de planètes se sont alignées, les collectivités ont marché, les ingénieurs qui étaient sur Montpellier se connaissaient bien et connaissaient très bien, aussi bien la précarité que les bobos, que tout ça. Donc, on a pu faire un comité citoyen vraiment cohérent. Donc, se sont rassemblées 47 personnes pendant 6 mois pour apprendre la démocratie participative. Parce que c'est ça qui est le plus... qui prend le plus de temps, mais il faut se prendre ce temps-là. Encore, à Montpellier, ça a été pendant 6 mois, mais il y a des endroits comme en Gironde où ils ont mis 2 ans en apprentissage, en se réunissant, à savoir qu'est-ce que c'est que de participer démocratiquement à une affaire comme celle-là. Donc à Montpellier, il y a eu 47 personnes, comité citoyen, qui ont fait des balades alimentaires pour pouvoir choisir, donc conventionner des points de vente. Il y a, je crois, 27 points de vente aujourd'hui sur la caisse de Montpellier. Et plus de la moitié, ce sont des producteurs. Mais il y a beaucoup aussi de points de vente, de supermarchés coopératifs, par exemple, des magasins de producteurs, etc. Donc 2 ans et demi d'existence, le financement se fait par les cotisations pour moitié, ce qui est pas mal. En sachant que les cotisations, il se trouve que cette caisse, ils ont choisi de donner une carte à 100 euros au départ. Pas à 150, on est parti sur 100 euros. Donc la moitié des sous viennent de cotisants. Il y en a 25% qui donnent moins de 10 euros, qui estiment que voilà, ils ne peuvent pas donner plus. Il n'y a aucun justificatif. Ça, pour moi, c'est hyper important. Qu'il y ait aucun... On n'a pas justifié qu'on est pauvre et qu'on a faim. Ça, vraiment, c'est le pire, moi, je trouve, dans les alimentaires, c'est de devoir fournir des papiers pour dire « je suis pauvre, j'ai faim ». C'est affreux. Donc, le 25% qui donnent moins de 10 euros et 25% qui donnent plus de 100 euros. Donc, ça veut dire qu'il y a des citoyens sur Montpellier, il faut habiter Montpellier, par contre, pour faire partie de la caisse, sur Montpellier, qui sont prêts à donner jusqu'à 180 euros pour cette expérimentation, parce qu'ils y croient. Donc, 2 ans et demi d'existence. Là, on est arrivé à un stade où les CIVAM et d'autres partenaires, mais les CIVAM comme tête de file, ont répondu à un appel à projet de la Banque des Territoires. Un énorme projet. C'est un projet à 20 millions en tout, avec 12 projets, des abattoirs, un camion mobile cuisine pour les écoles. Enfin, il y a vraiment beaucoup de projets là-dedans. Mais pour moitié, les sous vont aller à la Caisse de Montpellier pour 5 ans, pour la soutenir pendant 5 ans. Bon, en sachant qu'à chaque fois qu'on vous donne des sous, subventions, il faut trouver les subventions en face. Hein. Mais bon, en principe, ça devrait se faire. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fondations qui nous suivent depuis. Ah oui, j'ai oublié de dire que pendant les 2 ans et demi où il n'y avait que 50% de cotisation, les autres 50% étaient assurés par des fondations. Le France, Carasso. Carasso nous a suivis pour tous nos projets autour de l'alimentation à fond. Alors souvent on me dit « ouais, c'est Danone ». Non, c'est plus Danone, c'est autre chose. C'est d'autres gens qui s'occupent de Carasso aujourd'hui. Donc voilà où on en est. Alors, on a 5 ans devant nous pour pouvoir faire que la caisse vive par elle-même. C'est la condition que nous donne la Banque des Territoires. On vous soutient pendant 5 ans, mais à la fin, il faut que vous ayez trouvé un modèle financier qui tienne la route. Voilà, qu'est-ce que j'aurais à dire de plus ? Ah oui, ils sont passés à 800 adhérents, là. Les adhérents se font, les adhésions se font au volontariat, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des demandes, et après, il y a moitié tirage au sort et moitié que ça soit éclectique au niveau culture, âge, sexe. Qu'est-ce que j'oublie là pour le... la mixité, enfin bon, une grande mixité, de manière à ce que ce soit vraiment éclectique. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions déjà ? Je vous ai cloué sur vos sièges là. Hein. Pardon ? Les 100 euros, oui, alors comment ça marche ? Avec une monnaie, comme vous avez là, la Mona, donc qui dépend du réseau Grain. La Mona, c'est une monnaie électronique, mais celui qui n'a pas de téléphone, il a un numéro. Il a un numéro, et donc c'est le commerçant qui, lui, gère électroniquement la chose. C'est-à-dire quand on achète chez lui, bah, il note le numéro de la personne et combien il a acheté, et voilà. Dans les projets qui suivent le projet TerraSol, où il y a la caisse dedans, où on a 12 projets, etc., il y a un projet qui est vraiment intéressant, qui est un projet d'une caisse d'investissement. Et dans cette caisse d'investissement, il y aurait donc, on espère, des dons, toutes sortes d'apports, mais aussi peut-être des choses qui ne sont pas dépensées dans les 100 euros par mois aussi, que ça puisse aller sur cette caisse d'investissement, qui servirait non pas à acheter du foncier, parce que ça, on n'a pas le droit de le faire avec une caisse d'investissement, mais de soutenir des installations de paysans autour de Montpellier. Il faut savoir que depuis que la caisse existe, il y a eu des groupements agricoles qui se sont créés, et c'est pour nous, en tant que réseau CIVAM, pourquoi on est investi dans le système de sécurité sociale de l'alimentation ? C'est parce qu'on appelle un changement de système agricole, bien entendu. Hein ? C'est-à-dire que si, d'un seul coup, il y a des caisses locales qui s'organisent, il va y avoir des besoins aussi, et ces besoins vont s'organiser aussi. Donc c'est toujours interactif au niveau production, mangeur. Je n'allais pas dire citoyen, parce que même les paysans sont des citoyens. Ouais. D'autres questions ? Alors, pour l'instant, c'est sur adhésion, parce que là, c'est limité à 800 sur Montpellier. Maintenant, des initiatives, il y en a 60 en France. Maintenant, là, je vous ai parlé de la caisse de Montpellier. Maintenant, je peux vous parler de la sécurité sociale au niveau de toute la France. Ils ont un numéro. Chez le commerçant, qui est conventionné par le comité citoyen, par les 47 citoyens. Donc, il va chez le commerçant. Alors, ce qui est intéressant, on a eu le séminaire de fin de première session il n'y a pas longtemps, là, au printemps. Non, à l'automne, bref, peu importe. Et il y avait beaucoup de témoignages de gens qui participent à la caisse. Et certains qui étaient de milieux très éloignés du bio, etc., qui vont maintenant à la Cagette, qui est donc le supermarché coopératif. Plutôt bobo du centre de Montpellier, et du coup qui disait là j'ai pris des habitudes, il y a des bonnes choses, je suis trop contente de pouvoir me les repayer, de les retourner. Donc de faire connaître quand même là, les bons produits, ça c'est vraiment pédagogique. Après il y a des retombées de ce type là dans les têtes et dans les envies. Alors, c'est une grille très précise et très grande, évidemment éthique. Hein. Bon, dans du durable, pas automatiquement bio. C'est pas automatiquement bio. L'injonction du bio ne fait pas partie de nos projets. Mais par contre, c'est vite vu de voir si c'est correct ou pas. Donc, le durable, il faut que ce soit socialement supportable, qu'on ne traite pas ses employés comme de la merde. J'ai oublié que j'étais enregistrée. J'ai encore dit un gros mot. Donc, ça, il y a beaucoup de critères. Local. Oui, bah, local. Oui, non, mais ça, de toute façon, ils vont. C'est des balades. Les balades alimentaires se font ville et autour de la ville. Et donc, ils remplissent des grilles, voilà, avec des critères très précis. Comment fait-on pour créer une crèche ? Non. C'était un choix sur Montpellier. Par mois. Alors là, avec le nouveau financement, ils ont réfléchi à maintenant s'adapter au nombre de personnes dans le foyer. Au départ, c'était 100 euros par famille. Et là, ils vont s'adapter au nombre de personnes par foyer. Il faut vous dire que ce projet de sécurité sociale alimentation avance tellement, avec ses 60 initiatives en France, hein, qu'on a réussi à trouver un financement intercaisse pour un projet national d'alimentation, PNA, ça doit être ça. Donc, intercaisse qui permet qu'il y ait des rencontres entre toutes ces caisses pour pouvoir échanger leurs pratiques, les recettes, comment ils se sont créés. C'est comme ça que j'ai appris que en Gironde, ils ont mis 2 ans à discuter avant, quoi, pour vraiment être sûr d'être féru de démocratie participative pour tout le monde. Donc, pourquoi je voulais parler de l'Intercaisse ? Oui, parce que donc en Gironde, on a vu qu'eux, ils avaient ce système-là, justement, par famille. Hein, c'était 25 euros par foyer, puis après, on rajoutait 25. Ben voilà. Donc, toutes les caisses ont leur identité, les projets de caisse. Les plus avancés aujourd'hui, je sais pas. Là, il y en a une à Lézignan, qui c'est Lézignan dans l'Aude, là. Bordeaux. Bon, Grenoble est en route, mais Grenoble, c'est la municipalité qui s'en occupe, alors on n'était pas très chaud, mais bon. Non, parce qu'ils ont fait un jury pour choisir une association. Enfin bon, ça, bref. Je vais pas casser du sucre sur les gens qui se bougent. Donc voilà, 60 initiatives. Allez sur le site de la SSA, il y a la carte des initiatives, donc c'est facile à vous de voir où ils en sont, etc. Donc des fois, c'est un tout petit village hein, qui ont juste fait un projet de panier de groupement d'achat, par exemple. Ça peut être ça au début, mais quand même avec un noyau de démocratie participative, de conventionnement à plusieurs. Oui.
C'est quoi vos pistes pour dans 5 ans, pourquoi les premières discussions que vous avez pour être autonome sur le financement ?
Je regrette de ne pas avoir les salariés avec moi là. Où t'es, Marco ? c'est de trouver des soutiens, pas de la cotisation, mais des soutiens de genre RSE, de genre voilà, des soutiens privés qui seraient prêts à nous suivre. Et pas seulement des subventions. La subvention publique, on les a pour 5 ans. Maintenant, je pense que ça peut durer encore, parce que ça les intéresse diablement. Franchement, ça les intéresse. Hein. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Il faut que ce soit viable.
Est-ce qu'en parallèle, il y a un travail qui est fait au niveau législatif pour qu'un jour, on puisse imaginer que ça soit le sixième pilier ?
Absolument. Absolument. Donc là, il y a une loi d'expérimentation qui a failli passer. On a été approchés par des députés qui n'avaient pas tout à fait la même vision que nous. Ils parlaient d'une association qui chapeaute hein, aussi pareil. Hein, le comité citoyen, ça passe pas très très bien. Mais bon, ça va, on tient le coup quand même. Donc on a été approchés par plusieurs députés. Ils ont essayé dans leur niche. Une niche parlementaire, là, voilà, il y en a qui connaissent mieux que moi. Moi, j'avoue que je nage un petit peu dans tout ça. Bon, voilà, ça n'a rien donné. Mais ça commence à venir, effectivement. Ça va se faire. Ça ne peut que les intéresser. De toute façon, quand on fait les calculs au niveau financier par rapport à ce que coûte l'aide alimentaire et ce que coûterait un système comme ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est très faisable. L'aide alimentaire coûte très cher. D'autres questions ? Donc oui, nous, notre but, c'est que ça passe au niveau législatif, bien entendu. Bien entendu. C'est pour ça que dans notre collectif, il y en a qui disent oh, « on parle pas avec un tel, on parle pas avec un tel, on parle pas avec les écolos, on parle pas avec... » Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut que ça advienne, donc il faut parler avec les politiques, évidemment. Moi, j'ai rigolé parce que quand on a signé le projet là, TerraSol, notre projet à 10 millions plus 10 millions, là, c'était à Paris, il y avait Audrey Pulvar qui était là, et elle nous a fait un discours comme quoi l'avènement de l'accès à l'alimentation, c'était pas une histoire de citoyens, c'était une histoire de politique. Eh bien, qu'ils y aillent ! Qu'ils y aillent ! Franchement ! C'était bizarre comme discours ce qu'elle nous a fait là. On était en train de signer un truc justement pour que les citoyens se mettent au boulot pour pouvoir mettre des expérimentations devant. Bon, on aimerait avoir une loi d'expérimentation parce que ça nous permettrait d'abord d'avoir un regard officiel de la recherche de l'État pour pouvoir analyser ce qui se passe. Parce que nous, on a toujours un groupe de recherche dans nos initiatives, mais là, donc, l'État n'est pas impliqué dedans. Donc ça permettrait ça. Et puis il y aurait plus de facilité pour plein de choses s'il y avait une loi d'expérimentation, comme zéro chômeur par exemple. Hein. Vous avez territoire zéro chômeur, ce genre de choses, où il y a des facilités pour installer des EBE, ce genre de choses. Donc là, on aimerait que cette loi d'expérimentation passe. Ça serait déjà un premier échelon. J'ai tellement de choses à dire que je ne sais plus où je vais. Oui.
Techniquement, si on voulait mettre en place une caisse, par exemple, qu'est-ce qu'il y aurait à faire ? Comment il faudrait s'y prendre ?
Ben, je vous conseillerais d'aller en observateur dans une des rencontres, soit du collectif de la sécurité sociale d'alimentation, soit dans l'intercaisse, parce qu'il y a tellement d'expérimentations différentes. Hein. C'est ça qui est étonnant. le collectif accepte toujours les observateurs dans les rencontres. Et on a, je ne sais pas combien de groupes de travail dans le collectif. On a un Framatim, là. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent beaucoup. Beaucoup trop pour moi, mais bon, beaucoup. comment faire ? Ben déjà, réunir un groupe de citoyens. Parce que ça va venir du besoin local, automatiquement du besoin local. Savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce qu'ils ont envie de faire des groupements d'achat ? Est-ce qu'ils ont envie de faire une épicerie ? Comme dans l'Ariège, ça tourne autour d'une épicerie, je crois, qu'ils ont créée. Il faut qu'il y ait effectivement un noyau de départ, mais qu'il y ait surtout un collectif de citoyens et qui apprennent à s'écouter et à ce que chacun ait sa place dans ce collectif. C'est ce qui est très important. Et que dans ce collectif, si possible, il y ait une mixité sociale, une mixité sexuelle, une mixité financière, etc. De manière à ce que ça soit juste comme départ. Mais c'est vrai que c'est difficile à dire comment on débute. Parce que toutes les expériences sont très, très différentes. Je pense que vous avez peut-être des réponses sur le site de la SSA où on détaille un peu chaque expérimentation. Ça peut vous donner des idées peut-être.
Vous avez une intention universelle sur ces projets. Est-ce qu'elle... Vous avez beaucoup de collectifs du coup disparates. Est-ce qu'il y a l'envisagement d'un changement d'échelle, par exemple, sur le national ? Est-ce que...
Ah, mais c'est le but !
Oui, c'est le but. Mais du coup, vous êtes éclaté là avec les petits collectifs, chacun sous ses différentiels. Et est-ce que vous voyez comment, après, approcher justement ce changement d'échelle ?
Alors, non. Mais ce qu'on sait, c'est que la Sécurité sociale de la santé a commencé avec plein de petites caisses mutuelles. Ça, il a fallu qu'il y ait des expérimentations qui prouvent... qui prouvent quoi ? Qui prouvent que ça peut marcher d'une part, et puis le besoin, quoi. Donc, non, il faut que l'État s'en empare. Tant que l'État s'en emparera pas, on ne pourra pas être universel. C'est pas possible. Le but du jeu, c'est vraiment ça.
Après, pour protéger le système, pour ne pas être récupéré, par exemple, ou être dévoyé...
On est ferme. On est très ferme. Vis-à-vis des députés qui nous ont approchés, il y a des choses qu'on n'a pas voulu signer parce que c'était pas assez, c'est assez démocratique pour nous, quoi. On est très ferme. Bon, même trop des fois. Hein. Des fois, il y a du dogme quand même, hein, dans le collectif. Mais bon.
Je ne sais pas si vous avez fait le rapport, la différence entre l'aide alimentaire et la sécurité sociale. Vous êtes revenu dessus ou vous êtes passé rapidement dessus?
Oui, mais, oui, parce que la sécurité sociale alimentation, c'est universel. L'aide alimentaire, c'est un pis-aller, c'est une rustine. Donc, non seulement c'est une rustine, mais en plus c'est de l'indignité. C'est Bénédicte Bonzi qui m'a dénoncé pour venir ici. Hein. Bénédicte Bonzi, qui est anthropologue, qui elle a beaucoup travaillé sur la violence alimentaire. C'est comme ça qu'on s'est connus, un colloque sur la violence alimentaire. Effectivement, il y a une violence pour les bénévoles, il y a une violence pour les bénéficiaires de cette aide alimentaire. Il y a une violence pour aussi ceux qui gèrent. Là j'ai appris qu'en ce moment, les centres, les locaux qui accueillent la nourriture sont attaqués. Là, il y a une vague d'extrême droite qui attaque les locaux d'aide alimentaire, de banque alimentaire, en disant que voilà, ils n'ont pas le droit de manger. Parce que pour eux, tous les pauvres sont des musulmans, j'imagine. Ouais. Non, mais voilà. Voilà où on en est, quoi. Non, la violence, elle y est, c'est sûr. C'est sûr. Et déjà, pour commencer, par se justifier. Je trouve ça infernal, quoi.
En fait, il n'y a pas que ça. Il y a à peu près entre 6 et 10 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire en France, ce qui est énorme. Et en fait, l'aide alimentaire, ce qu'elle permet de faire, c'est d'évacuer les surplus de la grande distribution, qui du coup continue à produire de la même manière des produits de mauvaise qualité, et les gens n'ont pas le choix. On leur donne tel ou tel produit, et ils ne choisissent pas leur alimentation. Donc en fait, ça justifie... C'était pas pensé comme tel au départ, et les gens qui la font sont de très bonne volonté, mais in fine, le système a rattrapé la chose. Et donc maintenant, ça justifie une production de mauvaise qualité et de la grande distribution. Donc là, l'idée, c'est de rétro-pédaler là-dessus et de donner à la fois le choix aux gens de leur alimentation, qu'ils aient accès à des produits de bonne qualité et qu'on change de modèle agricole et de modèle alimentaire, en fait. C'est ça qui est en jeu. Mais en fait, je trouve que ce serait intéressant d'expliciter peut-être un peu plus, parce que vous dites qu'il y a plein de caisses différentes, etc. Bon, d'accord, mais donc il y a le collectif citoyen, ok, mais après, il y a aussi toute la chaîne derrière, c'est-à-dire tous les paysans qui alimentent ça, donc comment se fait en fait cette connexion, ensuite comment se fait la question des cotisations, etc. Je pense que pour donner une idée claire, il faut qu'on... peut-être qu'on comprenne le cheminement qui a été fait, et peut-être à partir de l'expérience de Montpellier, expliciter le cheminement, peut-être pour que ce soit plus limpide et plus duplicable éventuellement.
Il me semble que j'ai dit 27 lieux de conventionnés, 27 lieux conventionnés, donc plus de la moitié qui sont des producteurs, en sachant qu'il n'y a pas assez de producteurs autour de Montpellier. Je crois que si les portes se ferment, ils ont 4 jours d'alimentation à Montpellier, hein, c'est vite vu. Mais comme dans beaucoup de villes, hein, moi je suis plutôt à Pézenas, il y avait 34 maraîchers dans les années 40, et aujourd'hui il y en a 4, autour de la ville. Donc déjà ça, ce changement de système... On a commencé à créer des groupements de maraîchers, mais pas que. La pêche, par exemple, 72% de la pêche de l'Hérault part à l'export. Du département ou de l'étranger. Et puis, faut pas oublier que nos terres agricoles, 74% de nos terres agricoles, c'est de la vigne pour le vin. On n'a même pas une grappe de raisin à manger chez nous. Il n'y a que du vin. Donc, tout ça, effectivement, va changer petit à petit. Parce qu'il va y avoir des besoins. Plus on va augmenter le nombre d'adhérents de la caisse, plus on va avoir de besoins de lieux de conventionnement et de volume aussi. Donc ça, donc ce changement de système, on est en train de voir pour que pousser certaines municipalités à acheter des domaines pour pouvoir après installer des maraîchers dessus. Maraîchers ou même céréales, on en a besoin. Hein. Et pois chiches. Il nous faut des légumineuses. Donc, c'était ça. Qu'est-ce que tu voulais que j'explicite aussi ? Oui, oui, il faut une certaine diversité pour alimenter une ville, bien sûr. Alors, on ne peut pas tout alimenter, évidemment. Évidemment que non. On ne va pas faire des bananes. Hein. Mais pourtant, il y en a au supermarché coopératif. On estime que les gens ont le droit d'acheter des bananes et du chocolat, quand même. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des points de vente qui ont du bio, mais qui sont de l'étranger. Hein. Oui.
Oui, pour parler d'expériences locales, biodiversité, il y a beaucoup d'expériences, enfin, il y a plusieurs expériences qui sont menées aussi en partenariat avec les monnaies locales.
Oui.
Alors les monnaies locales, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont déjà, elles ont déjà un réseau de professionnels, des producteurs principalement, puisqu'on fonctionne localement, donc on est sur de la production véritablement locale, de bonne qualité en plus. Et donc, il y a l'expérience de la Mona qui fonctionne avec une monnaie numérique spécialement dédiée à cette caisse alimentaire. Mais il y a par exemple des expériences comme Solidoum ou Solicagnol.
Sur Toulouse.
Qui fonctionnent avec leurs billets de monnaie locale ou en e-monnaie locale parce que c'est toutes ces monnaies dont l'AIGA fait partie. Fonctionne avec le même système numérique, la même gestion numérique qui est le Coinos. À Montpellier, le Coinos a été adapté pour fonctionner avec la Mona, pour la Mona. Mais en réalité, c'est ce dont on parle en ce moment dans les conseils collégiaux de la fédération, c'est qu'on peut adapter le Coinos à tout type d'utilisation en fait. Et donc pour chaque projet bien défini qui est un collectif citoyen, bien sûr avec un collectif citoyen, mais la monnaie serait gestionnaire. Donc dans le cas de Solicagnol, c'est ce qu'ils veulent, et dans le cas de Solidoum, c'est ce qui devrait aussi, je sais pas, ça fonctionne plutôt en
milieu fermé, oui.
En milieu plus fermé, voilà. Et donc en fait, la monnaie locale, elle bénéficie du réseau déjà de producteurs, donc elle participe en plus au développement de la production locale, à sa pérennisation, à sa, sa résilience. Et donc, en plus, sur le plan économique, elles apportent des moyens, puisque tout l'argent qui est échangé va sur un fonds de garantie qui est géré par une banque et qui prête exclusivement sur le territoire français à des projets éthiques qui sont de l'ordre alimentaire aussi, énergie renouvelable, coopérative, épicerie solidaire, tout ce qu'on veut, production très spécifique. Donc en fait, je pense que ça, c'est un point à ne pas négliger dans justement la... Parce qu'il y a la sécurité sociale alimentaire d'un point de vue national, comme disait... poser la question, c'est une chose, ça peut être bien, mais je pense que ces initiatives-là, elles devraient aussi être développées aussi, beaucoup.
Mais à partir du moment où les conventionnements se feraient automatiquement par un bassin, et par des citoyens localement, de toute façon, ça devrait être circulaire, au moins. Même sans monnaie... Là, il se trouve que c'est une sécurité pour nous que ce soit avec une monnaie locale, hein, la mona. Mais si on devait expérimenter nationalement, le plus dur, ça serait, c'est ça qui est le plus dur à tenir, hein, c'est que ça soit fait par les comités citoyens locaux.
Est-ce que, là, c'est ça, par exemple, pour un producteur,
oui.
Est-ce qu'il a, ça sécurise une production ? Est-ce qu'il y a un intérêt ?
Et l'idée, c'est ça, il faut planifier, évidemment. Si on arrive à gérer au niveau local, avec suffisamment de terres pour pouvoir le faire, le but, c'est la planification, de manière à ce qu'il n'y ait plus de surplus, et puis qu'on réponde aux besoins. Ça ferait partie des bienfaits de la SSA.
Une autre question ?
Donc peut-être passer la parole à Émilie et puis peut-être revenir un peu là-dessus après c'est vrai que oui, peut-être la question de la monnaie, peut-être ce serait bien de développer. Mais du coup, Émilie, par rapport au syndicat et la question alimentaire, comment vous positionner les choses et dans quelle mesure ça peut résonner avec ce type de projet?
Oui, je me suis retrouvée à cette table ronde un peu par hasard. Ceci dit, c'était très intéressant de pouvoir vous entendre parce que je pense que c'est un tout. Alors sur le territoire, en tout cas, le syndicat ne s'est pas approprié cette question de la sécurité sociale de l'alimentation. Ceci dit, la question d'une alimentation de qualité, penser aux revenus des agriculteurs, à ce qu'on ait un revenu décent pour les agriculteurs, à une éducation au goût aussi. C'est des sujets qui ont vraiment, sur lesquels on a travaillé et on travaille. Un sujet que, en tout cas, des exemples que je peux donner, on a amorcé, il y a 15 ans peut-être, Yannick, il saurait mieux que moi les dates, mais le projet de cantine de cuisine à Sandras, local. L'idée, c'était vraiment de pouvoir, auprès des enfants, donc la cuisine de Sandras, hein, qui donc nourrit les enfants de l'école de Sandras, qui est une école qui regroupe les enfants de la vallée du Galaison, essentiellement, pas que, évidemment. Donc, c'est 100 repas par jour, à peu près. L'objectif, c'était de, justement, proposer aux enfants des repas de qualité, en circuit court le plus possible. Et en bio, c'est encore mieux, du moins en tout cas avec des labels bio et d'autres. Mais voilà. Et donc, on a accompagné la collectivité. Donc, c'est la commune hein, qui a porté cette initiative. Et le syndicat, c'est vraiment à accompagner la commune pour mettre en réseau. Et c'est toute la difficulté. En tout cas, c'est souvent là où on passe le plus de temps. Mais c'est en effet un temps indispensable pour que les projets aboutissent, c'est du temps de concertation, de mise en réseau. Et donc, c'est mettre en contact. C'est des métiers nouveaux aussi, hein, entre donner des repas qui arrivent d'une centrale à des gamins et juste à faire réchauffer, et puis aller au contact d'agriculteurs, négocier des prix. Du moins, on a eu besoin de faire évoluer les métiers au niveau du centre social. Donc, ça a été une des initiatives, avec l'objectif aussi, au-delà d'assurer aux enfants une alimentation de qualité, c'était aussi de leur faire découvrir les produits qu'ils mangeaient. Et donc, dans les premiers temps, hein, c'est plus le cas maintenant, mais il y a, avec la nouvelle direction, je pense qu'il y a des choses qui pourront se remettre en route. Mais c'était de leur montrer, par exemple, les légumes avant la transformation. Donc, à quoi ressemble une betterave? Donc, il y avait des ateliers sur ce temps de midi, là, de pause méridienne. Des ateliers pour découvrir les aliments non transformés, à quoi ressemble un poireau, etc. Donc, ça, c'est un projet qui a permis, là aussi, d'assurer. Alors, il n'y avait pas de garantie. Vous posez la question de est-ce que ça sécurise un approvisionnement pour les agriculteurs? On n'en était pas là. Et d'ailleurs, ça a été une difficulté aussi. Il y a quand même des points. Tout n'est pas rose. Hein, et tout n'a pas été simple parce que c'est la question aussi des volumes. C'est-à-dire que pour faire 100 repas, il ne suffit pas d'avoir un kilo de carottes, quoi. Et on en a besoin de X kilos de carottes le jour J. Et voilà. Donc, il y a même dans les recettes, c'est même réfléchir sur les recettes, les produits de saison, travailler sur des produits de saison. Donc, réapprendre aussi, à la fois pour les cuisiniers, ça a été aussi une révolution à ce niveau-là. Donc ça, c'est un projet. Plus en amont des filières et avant de parler de l'alimentation, il y a la production. Et donc, des initiatives, le syndicat accompagne les collectifs d'agriculteurs pour les soutenir dans la transformation de leurs produits. Donc, il y a eu des exemples comme des ateliers de transformation collectifs. On peut citer le projet de la Cuma du pain des disques. Là aussi, projet porté par un petit collectif d'agriculteurs, mais avec un besoin d'ingénierie, en tout cas de structure qui accompagne pour toute la partie administrative, technique, qui est souvent lourde. Hein, les financements aussi, c'est quand même... Donc ça, c'est ce que peut faire le syndicat, ce qu'a pu faire le syndicat sur la Cuma du pain des disques, plus récemment sur le pôle agri-alimentaire de Saint-Julien-des-Points, du moins qui se situe à Saint-Julien-des-Points. Là aussi, c'était permettre aux agriculteurs de diversifier leur production et de créer des produits à plus haute valeur ajoutée. La châtaigne en frais, c'est bien, mais c'est pas rémunérateur du tout. Donc, il vaut mieux transformer. Voilà. Donc, c'est des exemples de projets, en tout cas, que nous, on a pu soutenir, qui vont dans le sens de mieux rémunérer, de garantir, de développer des produits de qualité sur un territoire, qui participent aussi à cette mise en culture et cette valorisation. C'est aussi participer à la préservation des paysages. Voilà. Donc, on n'est pas sur ce projet santé de sécurité sociale de l'alimentation, mais en fait, on se rejoint sur la question de l'accès à une alimentation de qualité. Donc déjà, il faut avoir des produits de qualité sur la production, sur un revenu décent aux agriculteurs et sur l'éducation. Donc ça aussi, ça me paraît essentiel. Donc on a le centre social qui organise des ateliers cuisine aussi. C'est redécouvrir aussi le désir de cuisiner aussi. Et je pense que... Alors je ne sais pas comment vous fonctionnez sur Montpellier ou d'autres, mais... Moi, je pense à des communes qui donnent des paniers... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, mais... Non. Comme une aide alimentaire. Voilà. C'est un petit peu... En fait, c'est un budget hein, pour les communes. Pour autant, le bénéficiaire ne choisit pas ses produits. Et pour en connaître certains, y a des produits, ils ne savent pas qu'en faire. Ils n'ont pas de Senseo. Je prends un exemple tout simple, hein, mais dans les colis, il y a des capsules, des dosettes Senseo. Ils n'ont pas de machine Senseo, donc sans intérêt. Donc il y a peut-être là, par ce biais-là, mais peut-être vous le faites, c'est une question que je vous pose, mais est-ce que les collectivités aussi se sont emparées de cet outil pour plutôt que de donner... Encore, d'accord.
Non, mais je vous laisserai prendre. Parce que j'ai un exemple, j'ai oublié de vous le donner, celui-là. J'ai reçu pendant quelque temps un sans-papier, un jeune homme qui était ami avec d'autres qui n'étaient pas sans-papier et qui allaient à l'aide alimentaire. Donc cette famille, quand ils avaient choisi ce qu'il y avait dans le colis alimentaire, ils lui donnaient à lui ce qu'ils n'avaient pas mangé, et lui m'a donné à moi pour mes animaux, parce que dans ce colis, il y avait un tiers qui n'était absolument pas adapté ni à la famille, ni à lui, quoi. Et ça arrive tout le temps. J'ai un voisin aussi, régulièrement dans mon escalier, je trouve des yaourts, parce que je crois qu'on lui donne des tonnes de yaourts, le pauvre, il n'en peut plus, des yaourts nature. Voilà. Donc, non, mais c'est sûr que ce n'est pas adapté. Et ça aussi, ça a un coût, de toute façon. Alors, on en a juste effleuré l'histoire de la loi Garot. Hein, on a oublié de dire que c'était la loi Garot qui donc avait perverti le système des surplus des supermarchés qui leur permettent d'acheter trop pour que vous en ayez plein les mirettes, pour que vous ayez envie d'acheter. Et puis donc, on achète trop et du coup, après, on donne à la banque. Ouais, on ne jette pas, on donne. Voilà, on n'a plus le droit de jeter. On donne à la banque alimentaire, mais du coup, ça n'est pas adapté. Pardon ? Défiscaliser, ils gagnent de l'argent avec ça, c'est ça qui est génial. Ça partait d'une si bonne intention, cette loi Garot. Mais alors, ils sont forts, hein. Franchement, ils sont forts. C'est comme pendant le Covid, d'un seul coup, on s'est mis à voir dans les supermarchés des tonnes de fruits et de légumes locaux qui venaient d'à côté. Ils ne font pas le reste du temps, mais là, ils y étaient. Là. Bref. Mais ils s'adaptent très, très vite.
Excusez-moi,
je vous ai coupé la parole, mais.
C'est déjà une question.
Voilà. Bon, je ne sais pas. D'autres questions ? Oui.
En fait, je ne sais pas si j'ai très bien compris votre métier.
Ah, mon métier ?
Parce que, non, par rapport aux plantes, vous prenez les plantes sauvages pour l'alimentation,
oui.
C'est ça ? Oui, parce que ça me paraît très intéressant que ce soit par la sécurité sociale parce que pour le point de vue sanitaire. Parce que nous, on a habité en Argentine, dans une région où il y avait des Indiens qui mangeaient les plantes sauvages. Et moi, j'avais mon bébé qui grossissait de 200 grammes, c'était beaucoup par mois. Et le pédiatre m'a dit, j'arrive juste d'un congrès mondial sur la santé alimentaire et on est arrivé à la conclusion que le meilleur aliment, c'est l'aliment de l'endroit. Mmh. Et donc, il m'a dit, essayez de manger les produits que les Indiens cherchent dans la forêt, et ça a été radical, le changement total. Donc, en fait, c'était par rapport à ça, je
pense... Ça n'a rien à voir avec la sécurité sociale de l'alimentation,
mon métier. Non, mais par rapport à l'alimentation que vous disiez, des plantes sauvages, et je pense que par rapport à la sécu, c'est quand même une question de santé, voilà.
Alors, c'est vrai que moi, je fais des formations pour les maraîchers pour qu'ils valorisent leurs plantes sauvages qui poussent toutes seules dans leur... parce qu'ils ne pensent pas à les vendre parce qu'ils ne savent pas comment ça se cuisine. Donc, je fais des formations pour les paysans là-dessus. Bon. Mais ça, on ne peut pas nourrir les gens avec des plantes sauvages par rapport à la quantité. Il faudrait que tout le monde soit comme moi dans des environnements complètement bio avec des animaux domestiques. C'est un petit paradis chez moi. Venez, hein, c'est super. Hein. C'est une vraie oasis. Mais donc, on en est très, très loin. Il ne faudrait plus qu'il y ait de béton nulle part pour qu'on ait la surface nécessaire pour pouvoir nourrir les gens avec des plantes sauvages. Les plantes sauvages, elles sont plus petites, puis surtout, il faudra apprendre à manger moins, parce qu'elles sont plus nourrissantes, donc on pourrait manger moins. Voilà. Donc, non, mon métier n'a rien à voir avec mon engagement dans la sécurité sociale de l'alimentation. C'est juste que j'ai une âme nourricière depuis toujours, et que ça m'a parlé, cet accès à l'alimentation, que je me suis engagée dans la SSA.
Alors, je voudrais bien répondre à cette dame, parce que je trouve qu'elle elle a parfaitement raison. Non, mais en fait, je viens de voir une conférence, justement, sur la santé par un médecin américain, qui prône justement la santé par les plantes et qui seraient susceptibles, et qui sont, et c'est vérifié par des expériences et des rapports internationaux, qui éradiquent complètement 15 maladies de base vachement graves de société moderne, comme l'athérosclérose, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'Alzheimer, les problèmes rénaux, etc. Et c'est vrai que dans les productions locales, les petites initiatives locales, c'est important justement de fonctionner avec des producteurs locaux, parce que fonctionner avec des plantes locales et de saison, ça contribue à la bonne santé.
Bien sûr.
Manger des tomates en hiver, c'est complètement débile. Parce
c'est pas
que
bon.
Des tomates en hiver.
Non, en plus, c'est pas bon.
Non, c'est pas bon, c'est ça. C'est pas bon et c'est pas du tout adapté à... Enfin, voilà, notre corps, c'est acide, ça correspond pas à les légumes de saison comme les poireaux, les choux, les carottes, tout ça, c'est basique et c'est vraiment super bon pour la santé. Voilà, c'est
ce que j'allais dire. Alors, si on veut révolutionner la médecine, là, ça, c'est encore une autre histoire. Je vous laisse faire. Là, vu mon grand âge, déjà, si je vois la sécurité sociale alimentation avant de mourir, je serais contente. Je l'aurais dit, hein, à tous les potes. Hein, débrouillez-vous, il faut que ça arrive. Mais... Évolutionner la médecine légale, c'est plus dur encore. Oui.
Juste, Émilie, il y avait l'année dernière, il y avait eu un atelier de reconnaissance des plantes sauvages comestibles fait par le syndicat des Hautes-Vallées-Cévenoles. Et je ne sais plus où ça en est, mais le centre social, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait un système de cagette aussi, qui s'appelait la cagette, que je ne connais pas en détail, mais...
Oui, j'en ai pas parlé parce que ça a été mis à l'arrêt parce que le centre social a eu des difficultés hein, ces dernières années financières importantes et de personnel. Donc c'est un projet qui a en effet qui a été mis à l'arrêt, mais l'initiative est tout à fait intéressante et voilà, on sait peut-être bien qu'on en parle, mais voilà, faut savoir que c'est à l'arrêt. Donc en fait, le principe c'était il y avait une personne au centre social qui organisait un achat groupé de produits, donc il faisait le tour des producteurs locaux, il constituait des cagettes et avec un prix qui était variable selon le quotient familial. Donc ceux qui payaient ceux qui étaient les plus aisés, on va dire ça comme ça, payaient un peu plus de la valeur de la cagette réelle qu'on payait aux producteurs et ceux qui étaient le moins aisés, plus en difficulté, eux payaient moins que le prix. Et donc c'était très varié comme produit qu'avec des producteurs locaux, ils étaient monté à une vingtaine de cagettes. Donc c'est une vingtaine de bénéficiaires du coup. Voilà, et autant des produits frais, c'était essentiellement des produits frais, du pain, des œufs, des légumes, des fruits, quand c'était de saison, puisque c'était des producteurs locaux. Donc ils avaient pu s'acheter un camion réfrigéré, du moins frigorifique. Mais ça demande vraiment une vraie logistique. Alors le centre social a vraiment envie de Sandra, ça a vraiment envie de rester sur ces projets-là. Mais voilà, il faut que l'équipe se reconstitue, qu'ils arrivent à se stabiliser pour relancer des initiatives de ce type. Mais la question de l'alimentation est vraiment au cœur du projet social du centre. Et donc c'est aussi, ils ont des ateliers cuisine toutes les semaines pour pouvoir faire découvrir la cuisine et inciter les gens à retrouver le goût de cuisiner et de nouvelles saveurs, parce que voilà, c'est de la cuisine, c'est pas que la cuisine française. On voyage à travers ces ateliers.
Les ateliers cuisine, ils correspondent à répondre à un besoin aussi, pas seulement pédagogique, mais aussi simplement de pouvoir manger avec d'autres gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en solitude et on perd l'appétit et l'envie de cuisiner parce qu'on est tout seul, tout simplement. Moi, j'aime pas qu'on pense que les gens savent pas cuisiner. La plupart des gens savent cuisiner. Mais soit ils n'ont pas de maison, de cuisine, et soit ils sont tout seuls. Et c'est vrai que tous ces ateliers cuisine, ça sert aussi à ça, et à faire du ensemble. La commensualité, c'est ça le mot, hein ? Commensalité, voilà. C'est important. Vous n'avez pas vu la conférence de la fourche à la fourchette ou l'inverse de Mathieu Dalmet ? Il explique bien ça. Hein. Il explique bien ça. Alors, je vais faire ma commerciale. On a aussi cette petite BD donc, qui est éditée par le collectif de la SSA depuis maintenant un petit moment. Je pense qu'ils vont en sortir une bientôt, avec une participation à 2 euros. Je vous la présente parce que si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez... Et que je me suis mal expliquée, surtout. Là, ça explique encore mieux. Puis surtout, ça vous permet de prêcher autour de vous d'une manière un peu ludique pour que... faire circuler cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, qui nous paraît être la bonne solution.
D'autres questions ?
Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, une information ?
Oui. Oui, voilà, je voulais juste dire que en ce moment, là, on a... Là, les gars... est répandu sur tout le territoire Cévennes, et donc on a un groupe local à Florac qui travaille aussi en partenariat avec la mairie de Florac et aussi en partenariat avec le PETR de Lozère Sud, et il y a un projet de caisse alimentaire qui est en réflexion et qu'on voudrait bien étendre dans le Gard aussi, donc avec le GAL, les financements européens, etc. Donc à savoir voilà, que déjà ici aussi ça existe, puisque ça existe à Lyon, ça existe à Montpellier, à Toulouse, avec le sol violette, avec à Bordeaux, et que là...
Paris 20e, il y a une expérimentation.
Ouais. D'accord, voilà, c'était juste pour donner une info que ça commence à se faire.
Il y a une question là-bas.
Ouais. Donc le PETR Sud Lozère, c'est l'équivalent du GAL Cévennes, c'est-à-dire que c'est les structures au niveau local qui gèrent les fonds européens. Et donc du coup, c'est dans le cadre aussi de subventions et d'aides au niveau du leader que c'est porté. Voilà. Et dans le cadre aussi du PAT, du plan alimentaire de territoire, qui sont des plans départementaux qui sont développés un peu partout.
Donc c'est une initiative qui s'appuie sur les PAT, mais il y en a certaines qui ont réussi à s'appuyer sur les PAT. Là, à Montpellier, c'est pas appuyé sur, mais la municipalité et l'agglo nous ont rejoint très très vite. Donc il y a des endroits quand même où les collectivités jouent le jeu.
Petite publicité au passage, deux prêcheurs seront là au mois de mai. Un moustachu nommé José Bové, oui, et Frédéric Rognon, qui est le spécialiste de Jacques Ellul, penser global, agir local. C'est le 29 mai à Saint-Jean-du-Gard. Allez-y, je vous en prie pour la suite.
Merci. Juste une petite question sur la sécurité sociale et l'alimentation, parce que vous évoquez, en fait, j'entends que c'est dans de grandes métropoles quand même. Est-ce qu'il y a des exemples en milieu rural ? Parce que
absolument, il y a le Cadenet qui est un petit village. Il y a des tas d'initiatives différentes. C'est pour ça que
Vraiment, vraiment, je vous invite à aller voir cette carte, parce que c'est vraiment étonnant. Et puis, à Lézignan, c'est pas très grand. Lézignan, là, c'est pas très grand. Dans l'Ariège, là, c'est petit aussi. Je sais plus quel village c'est, où ils tournent autour d'une épicerie. Non, il y a vraiment toute forme. Au cas donné, je crois que c'est un tout petit collectif de citoyens, mais qui, ça fait un moment qu'ils y sont.
Okay. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, il y a des questions là-bas.
Oui, j'arrive tout de suite. Je me dépêche.
Un peu plus vite, alors. Hein.
Je me dépêche un peu plus vite, mais je suis coincé par le système, toujours. Toujours le système qui met des bâtons dans les roues, des regroupements d'individus.
Bonjour, donc j'ai bien compris qu'on parlait d'alimentation, le droit de l'alimentation pour tous, le mieux manger par la qualité, les labels. Il y a du lien social, il y a l'éducation du goût, à la cuisine, notre alignement vis-à-vis des saisons. Et je voulais savoir si vous vous étiez posé la question de l'éducation au moins manger. Ce qui était aussi économiquement et pour la santé, pour être intéressante.
C'est tout à fait un autre sujet. Moins manger, puis plus de légumineuses et moins de viande, tout ça, c'est un autre sujet. Je pense que c'est la phase d'après. Parce que comme je vous l'ai dit, dès le départ, on n'a pas voulu d'injonction au bien manger. Dire aux gens, c'est ça qui est bien mangé. Ça, c'est la gauche caviar, je ne supporte pas. Ils ont toujours des trucs comme ça à vous dire ce qui est bien et pas bien. Donc pour l'instant, ça n'était pas notre sujet par rapport à... Mais, par contre, vous avez dit droit à l'alimentation, et ça, j'ai oublié de le dire. Notre but, quand même, c'est que le droit à l'alimentation soit inscrit dans les droits... il y a le droit au logement, mais il n'y a pas le droit à l'alimentation. Moi, je dis toujours que le droit à l'alimentation, c'est un droit de naissance, comme de respirer et de boire. Hein. On ne peut pas vivre sans manger, donc ça devrait être inscrit, le droit à l'alimentation. Non, on n'en est pas là. Mais continuez le combat, vous êtes plus jeune que moi.
Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore. Mais je vous encourage vraiment à aller voir, regarder cette bande dessinée et contribuer en la prenant, parce que c'est assez clair. Et donc, ça permettra de diffuser l'idée. C'est le prix d'édition et ça vaut la peine, je pense.
C'est gratuit parce que ça a été payé par des fondations. C'est pas drôle. C'est l'injuste prix donc, de notre alimentation. C'est l'inflation.
Donc, oui, on a fait. C'est ce qui s'est passé avec Territoire à Vivre. Donc, après le plan relance, on a commencé à faire des partenariats vraiment profonds avec le Secours catholique, avec l'Union des épiceries sociales et solidaires, avec des partenaires sociaux ou caritatifs avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler. C'est ce qu'il fallait faire. Et à Montpellier, ce qui s'est passé. Moi, j'étais à la toute première réunion quand les ingénieurs ont réuni toutes les associations qui tournaient autour de l'aide alimentaire à Montpellier. Donc, il y avait aussi bien une association de jeunes engagés qui faisait des paniers suspendus, ce genre de choses, mais qui n'étaient pas dans le caritatif, enfin dans le... comment ça s'appelle quand on est prié dans le religieux, voilà, confessionnel, dans le confessionnel, voilà, qui n'étaient pas là-dedans. Donc il y avait donc plus d'une vingtaine d'associations autour de cette table, et on aurait dit que tout le monde disait « Ah, enfin !» Enfin, on travaille ensemble, parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de ça. Les bénévoles, il faut savoir qu'ils ont le nez dans le guidon en permanence, quoi. Et donc là, le fait qu'il y ait deux salariés qui soient là pour ça, pour les réunir, pour organiser les rencontres, pour préparer le babysitting. Quand on faisait les rencontres, eh ben, on prépare, on a une babysitter pour que les femmes avec les petits-enfants puissent y assister aussi. Voilà. Les femmes ou les hommes. Oh, j'ai dit une parole sexiste, excusez-moi, vous la virerez. Hein. Voilà. Donc, oui. C'est ça qui était intéressant et qui a débouché sur une belle avancée, c'est de travailler tous ensemble, tous les gens concernés, ce qui est important, les gens concernés par la question, ensemble. Voilà, on a réussi à les feinter, à feinter l'État avec ses subventions et à pouvoir travailler ensemble et à avancer loin. Moi, je trouve qu'on avance loin. Parce que, apparemment, tout le monde ne savait pas ce que c'était, mais moi, je peux vous assurer, il y a plein d'émissions de radio maintenant, des articles. On en parle de plus en plus de cette sécurité sociale de l'alimentation comme quelque chose de fiable et de logique, de possible. Voilà, de possible. Voilà, j'ai fini, moi.
Hein. Merci, je suis chargé de vous remercier toutes les trois. Au nom de la municipalité de Saint-Paul-Lacoste, merci beaucoup. On peut vous applaudir encore. Et je cède la parole à la première adjointe de la municipalité de Saint-Paul-Lacoste, qui déteste qu'on dise ça, Edith Glardon, qui est tout près de moi.
Mais je remercie déjà Mathieu qui nous a accompagnés ces trois jours. En fait, voilà, au nom d'Adrien, le maire qui a dû s'absenter il n'y a pas longtemps, et au nom de la municipalité, il y a quelques éléments. Salut Nathalie qui est au fond. On voulait vous remercier d'avoir répondu à cette invitation. On voulait déjà remercier le collectif avec... Et voilà, mais c'est fait. Ciao. Je passe le relais. C'est normal, je suis un peu vieille.
Ils veulent te faire taire. Non, Edith, on ne peut pas finir comme ça. Chante-nous une chanson et passe à travers ce cerceau. Ou chante-nous, non, rien du tout.
D'accord, ok. Voilà. Non, mais alors attends, du coup, je fais ça.
Ouais.
Ah.
Oui, carrément.
Bah. Bah oui, si je passe de l'autre côté. Donc voilà, je voulais remercier le collectif qui a préparé ces trois jours. Donc Noémie, les Mathieu, parce qu'il y a plusieurs Mathieu, mais je ne vais pas tous les citer. Et surtout, comment dire, souhaiter bon vent à Mélodie et Guillaume, qui sont les... Voilà. Voilà, et on vous rappelle donc que la municipalité, depuis 5 ans, avec les habitants, a travaillé justement à faire éclore ce projet de partenariat entre un couple aussi sympa que Guillaume et Mélodie, qui ont deux petits-enfants d'ailleurs, et une association qui représente un peu, qui représente le syndicat de Val-Cévenol, qui représente le parc, qui représente la CAF, qui représente le centre social, qui représente les habitants, les associations locales et le conseil municipal. Et c'est cette association, en partenariat avec ce couple, qui va essayer de, justement de prolonger ce genre d'événement grâce aux compétences des uns et des autres. Parce qu'une municipalité, on est neuf, nous, on est petit, on ne peut pas faire grand-chose. Donc notre but, depuis 5 ans, c'est ce qu'on fait. On essaie de créer des outils, justement, pour que ce genre de manifestation ait lieu. Et dans un certain sens, vous avez bien compris. Donc un grand merci à vous de vous être déplacés, de vous intéresser à ce genre de problématiques qui, pour nous, sont importantes. Et merci beaucoup au collectif. Noémie, t'es pas là, mais elle le saura. Voilà, qui ont préparé tout ce... Et bien sûr, aux intervenants. Voilà, bonne fin de journée. Merci à tous.